Chapitre 82. La gloire la plus ardente. Il y en a un que vous devez surveiller, bien que tous possèdent un certain potentiel pour la précognition. Moellac est le plus puissant à cet égard. Son influence pénètre l'âme alors qu'elle se sépare du corps, créant des manifestations nourries par l'étincelle de la mort elle-même. Mais non, c'est une digression, un détour. La royauté. Nous devons parler de la nature de la royauté. Extrait du diagramme. Livre du deuxième tiroir de bureau. Paragraphe 15. Kaladin gravit en boitant la route en lacet qui menait au palais, avec sa jambe qui lui faisait l'effet d'une masse noueuse de douleur. Il faillit tomber en atteignant les portes et s'affala contre elles, le souffle court, la béquille sous un bras, la lance dans l'autre main. Comme s'il pouvait faire quoi que ce soit avec. Il faut que j'atteigne le roi. Comment ferait-il pour éloigner Elokar? Moash le surveillerait. Nom des foudres. L'assassinat pouvait se produire d'un jour à l'autre, et même d'une heure à l'autre. Dalinar devait déjà être assez loin des camps de guerre. Surtout, ne pas s'arrêter. Kaladin pénétra dans l'entrée en trébuchant. Pas de garde aux portes. Mauvais signe. Aurait-il dû donner l'alarme? Il n'y avait pas de soldats dans le camp pour l'aider, et s'il arrivait en force, Grave et ses hommes sauraient que quelque chose allait de travers. Seul, Kaladin parviendrait peut-être à voir le roi. Son plus grand espoir consistait à conduire discrètement Elokar en lieu sûr. « Crétin, se dit Kaladin, c'est maintenant que tu changes d'avis. Après tout ça, qu'es-tu en train de faire ?»« Mais nom des foudres, le roi faisait des efforts. Il en faisait réellement. Il était arrogant, peut-être incapable, mais il essayait. Il était sincère. » Kaladin s'arrêta, épuisé, tandis que sa jambe hurlait, et s'appuya contre le mur. Est-ce que ça ne devrait pas être plus facile? Maintenant qu'il avait pris cette décision, n'aurait-il pas dû se sentir déterminé, confiant, regonflé à bloc? Il n'éprouvait rien de tout ça. Il se sentait épuisé, perdu, hésitant. Il s'obligea à continuer. « Ne t'arrête pas. » Plaise au Tout-Puissant qu'il n'arrive pas trop tard. Recommençait-il à prier maintenant? Il se fraya un chemin à travers de sombres couloirs. N'aurait-il pas dû y avoir plus de lumière? Au prix d'un effort, il atteignit les appartements supérieurs du roi, avec la salle de conférence et son balcon sur le côté. Deux hommes vêtus d'uniforme du pont 4 gardaient la porte, mais Kaladin n'en reconnut aucun. Ils ne faisaient pas partie du pont 4. Ce n'étaient même pas des membres de l'ancienne garde royale. Nom des foudres. Kaladin s'approcha d'eux en boitant, conscient qu'il devait offrir un spectacle pitoyable. Trempé jusqu'aux os, boitant sur une jambe qui laissait derrière lui, remarqua-t-il, des traces de sang. Il avait fait sauter les sutures de ses plaies. « Arrêtez !» dit l'un des hommes. Il avait le menton tellement fendu qu'on aurait juré qu'il avait reçu un coup de hache quand il était bébé. Il jaugea Kaladin de la tête aux pieds. « Vous êtes celui qu'on appelle Béni des Foudres ?»« Et vous, les hommes de Grave ?» Les deux gardes échangèrent un regard. « Ne vous en faites pas, » reprit Kaladin. « Je suis avec vous. »« Moash est-il là ?»«
Il est absent pour le moment, » répondit le soldat. « Il se repose. C'est un jour important. »«
Je n'arrive pas trop tard, » se dit Kaladin. La chance était avec lui.
« Je veux participer à ce que vous préparez. »«
Tout est déjà en place, homme de pont, » répondit le garde. « Regagnez votre baraquement et faites comme si de rien n'était. »
Kaladin se pencha vers lui comme pour murmurer quelque chose. Le garde se pencha à son tour. Kaladin lâcha alors sa béquille et lui asséna un violent coup de lance entre les jambes. Kaladin se retourna aussitôt, tournoyant sur sa jambe valide et traînant l'autre pour projeter sa lance en direction de l'autre homme. Ce dernier leva sa propre lance pour parer le coup et voulut crier.
« Aux armes ! Aux armes !»
Kaladin le percuta et fit tomber sa lance. Il laissa lui-même tomber la sienne, saisit l'homme par le cou avec des doigts humides et engourdis et lui cogna la tête contre le mur. Puis, il pivota, se baissa et asséna un coup de coude en pleine tête à menton fendu qu'il envoya violemment heurter le sol. Les deux hommes s'immobilisèrent. Pris de vertige après ce soudain effort, Kaladin s'adossa contre la porte. Le monde se mit à tourner. Au moins, se savait-il toujours capable de se battre sans fulgiflamme. Il se surprit à laisser échapper un rire qui se changea en quinte de toux. Venait-il réellement d'attaquer ces hommes? Il était désormais impliqué. Bourrasque. Il ne savait même pas pourquoi il faisait ça. La sincérité du roi l'expliquait en partie, mais ce n'était pas la raison véritable, au plus profond de lui. Il savait que c'était ce qu'il devait faire. Mais pourquoi? L'idée que le roi puisse mourir sans véritable raison le rendait malade. Ça lui rappelait ce qu'on avait fait à Tien. Mais ce n'était pas non plus la raison tout entière. Nom des foudres, il ne se comprenait pas lui-même. Les gardes ne bougeaient plus, à peine agités de quelques spasmes. Kaladin toussait sans pouvoir s'arrêter, cherchant à reprendre son souffle. Pas le temps de faire preuve de faiblesse. Il leva une main crispée, tourna la poignée de la porte et l'ouvrit de force. Il tomba à demi dans la pièce, puis se redressa, en titubant. « Majesté !» appela-t-il en se hissant sur sa lance et entraînant sa jambe blessée. Il atteignit le dossier d'un canapé et s'en servit pour se redresser entièrement. Où se trouvait le... Le roi était étendu sur le canapé, immobile. Adeline se battait en décrivant d'amples gestes de sa lame, maintenant une parfaite posture du vent, et la pointe de l'épée projeta des gouttes d'eau lorsqu'il trancha le cou d'un soldat par Shendi. De vifs éclairs rouges s'échappèrent en crépitant du cadavre, reliant le soldat au sol lorsqu'il mourut. Les Alétis qui se trouvaient tout près prirent grand soin de ne pas marcher dans des flaques proches du cadavre. Ils avaient appris à leurs dépens que ces étranges éclairs pouvaient tuer à travers l'eau. L'épée brandie, Adeline mena une charge éclair contre le groupe Parchendi le plus proche. Maudite soit cette tempête et les vents qui l'avaient apportée. Fort heureusement, l'obscurité avait été quelque peu repoussée, car Navani avait envoyé des fabriaux qui baignaient le champ de bataille d'une lumière blanche incroyablement régulière. Adeline et son équipe affrontèrent de nouveau les Parchendi. Cependant, dès qu'il se retrouva parmi l'ennemi, il sentit quelque chose tirer sur sa jambe. Une boucle de corde? Il tira brusquement en arrière. Aucune corde ne pouvait retenir une cuirasse d'éclat. Avec un grondement, il arracha la corde aux mains qui la tenaient, puis il tira de nouveau lorsqu'on passa une autre corde autour de son cou pour l'entraîner en arrière. Il tournoya avec un cri et trancha la corde d'un ample coup de lame. Trois nouvelles boucles surgirent des ténèbres dans sa direction. Les Parchendi avaient envoyé une équipe entière. Adeline revint aux amples coups défensifs, comme Zaël lui avait appris pour résister à une attaque à l'aide de cordes. Il devait avoir tendu d'autres cordes sur le sol devant lui, en s'attendant à ce qu'il fonce dessus. Oui, là-bas. Adeline recula, tranchant les cordes qui l'atteignaient. Malheureusement, ses hommes dépendaient de lui pour percer la ligne Parchendi. Comme il reculait à la place, l'ennemi attaqua en force la ligne Aleti. Comme à leur habitude, ils n'utilisaient pas de formation de combat traditionnelle, mais attaquaient plutôt par escouade ou par paire. C'était effroyablement efficace sur ce champ de bataille chaotique et trempé, avec des éclairs et des rafales de vent. Perel, le commandant des opérations qu'il avait nommé responsable de l'artillerie légère, appela le flanc d'Adeline à se retirer. Adeline laissa échapper une série de jurons, trancha une dernière corde et recula, l'épée tirée au cas où les Parchendi le suivraient. Ils n'en firent rien. Deux silhouettes s'approchèrent cependant de lui lorsqu'il se joignit à la retraite. « Toujours en vie, homme de pont ?» demanda Adeline. « Toujours en vie !» répondit Scar.
« Vous avez encore des cordes collées à vous, Clarissime, » observa Drei.
Adeline tendit le bras et Drei les dégagea à l'aide de son couteau. Par-dessus son épaule, Adeline regarda les Parchendi reformer leur rang. Le bruit rude de leur chant lui parvint d'un peu plus loin entre deux fracas de tonnerre et deux rafales de vent. « Ils n'arrêtent pas d'envoyer des équipes pour m'affronter et me distraire, » expliqua Adeline. « Ils n'ont pas l'intention de me vaincre. Ils veulent simplement me tenir à l'écart du combat. »
Ils devront bien vous affronter à un moment ou à un autre, répondit Dreyi en tranchant une autre corde. Il leva la main et la passa sur son crâne chauve pour en essuyer la pluie. Ils ne peuvent pas laisser les porte-éclats tranquilles.
En réalité, répondit Adeline en étrécissant les yeux, écoutant ses chants,
c'est précisément ce qu'ils sont en train de faire.
À travers des trombes d'eau charriées par le vent, Adeline courut dans un concert de cliquetis vers le poste de commandement, près des lumières. Perel, enveloppé d'un grand manteau coupe-tempête, se tenait là à hurler des ordres. Il adressa un bref salut à Adeline.
« Quelle est la situation ?» demanda Adeline.
« Nous faisons du surplace, Clarissime. »«
Mais encore ?»«
Je veux dire par là, Clarissime, » expliqua Perel, « que nous les repoussons sans faire le moindre progrès. Nous sommes à peu près à égalité. Chaque côté cherche un avantage. Ce qui m'inquiète, ce sont surtout les réserves des Parchendi. Ils auraient déjà dû les affecter au combat. »
« Les réserves ?» demanda Adeline en regardant au-delà du plateau mal éclairé.
« Les chanteurs, vous voulez dire ?» Sur la gauche comme sur la droite, les soldats Aleti combattaient les autres unités Parchendi. Des hommes criaient et hurlaient. Des armes s'entrechoquaient. Bruit mortel et familier d'un champ de bataille.
« Oui, Clarissime, » confirma Perel. « Ils sont alignés contre cette formation rocheuse au milieu du plateau et chantent de tout leur cœur. »
Adeline se rappelait cet affleurement rocheux qui se dressait dans la pénombre. Il était largement assez grand pour accueillir un bataillon à son sommet.
« Nous serait-il possible de le gravir par derrière ?»«
Sous cette pluie, Clarissime ?»
demanda Perel.
« Peu probable. Peut-être que vous le pourriez, vous, mais voudriez-vous réellement y aller seul ?»
Adeline attendit que l'empressement familier le pousse de l'avant, le désir de se précipiter au combat sans s'inquiéter des conséquences. Il s'était entraîné à résister à cette pulsion, et il fut surpris de la trouver disparue. Il n'y avait plus rien. Il fronça les sourcils. Il était fatigué. Était-ce pour cette raison ?
Il réfléchit à la situation tandis que la pluie crépitait sur son casque.
Nous devons atteindre ces Parchendi à l'arrière, songea-t-il. Père veut que l'on affronte les réservistes, que l'on interrompe les chants. Qu'avait dit Chalan au sujet de ces plateaux intérieurs et des formations rocheuses qui s'y trouvaient ?
Rassemblez-moi un bataillon, ordonna Adeline. Un millier d'hommes, infanterie lourde. Quand je serai parti avec eux depuis une demi-heure, envoyez le reste des hommes mener une attaque frontale contre les Parchendi. Je vais tenter quelque chose. Et je veux que vous détourniez leur attention.
Vous êtes mort ! Cria Dalinar en direction du ciel.
Il se retourna, toujours sur le plateau central entre les trois champs de bataille, ce qui fit sursauter les aides de camp et les serviteurs proches de lui.
Vous m'avez dit qu'on vous avait tué !
La pluie cinglait son visage. Ses oreilles lui jouaient-elles des tours au cœur de ce chaos de pluie et de cris ?
« Je ne suis pas le Tout-Puissant, » répondit la voix.
Dalinar se retourna, cherchant parmi ses compagnons surpris. Quatre hommes de pont en manteau coupe-tempête reculèrent comme s'ils avaient peur. Ses capitaines observaient les nuages d'un air hésitant, gardant la main sur l'épée.
« L'un ou l'autre d'entre vous a-t-il entendu cette voix ?» demanda Dalinar.
Hommes et femmes secouèrent la tête.
« Est-ce que vous entendez le Tout-Puissant ? »
demanda l'une des messagères.
« Oui. » C'était la réponse la plus simple, même s'il ignorait ce qui se passait précisément.
Il continua à traverser le plateau central dans l'intention d'aller voir comment s'en sortaient les groupes d'Adeline.
« Je suis désolé, » répéta la voix.
À la différence des visions, Dalinar ne trouva aucun avatar en train de prononcer ces mots. Il jaillissait de nulle part.
Vous avez fait de gros efforts, mais je ne peux rien pour vous.
Qui êtes-vous ? Siffla Dalinar.
Je suis celui qu'on a laissé en arrière, répondit la voix.
Elle n'était pas strictement identique à celle des visions. Cette voix-là possédait une profondeur, une densité.
Je suis le fragment de lui qui demeure. « J'ai vu son cadavre.
Je l'ai vu mourir quand Abjection l'a massacré, et j'ai pris la fuite pour continuer comme je l'avais toujours fait. La parcelle de Dieu qui demeure en ce monde, les vents que les hommes doivent ressentir. Répondait-il à la question de Dalinar ou ne faisait-il que prononcer un monologue? Dans les visions, Dalinar avait cru au départ qu'il conversait avec cette voix, pour découvrir ensuite que la moitié de ce dialogue apparent avait été prédéfini. Il ignorait s'il en allait de même cette fois-ci. Nom des bourrasques, se trouvait-il actuellement au cœur d'une vision? Il s'immobilisa, s'imaginant soudain, à son grand effroi, affalé sur le sol du palais après avoir halluciné tout ce qui conduisait à cette bataille sous la pluie. « Non, se dit-il avec insistance, je refuse d'emprunter ce chemin-là. » Il avait jusqu'à présent toujours reconnu les moments où il se trouvait au cœur d'une vision. Il n'avait aucune raison de penser que les choses aient changé. Les réserves qu'il avait demandées pour Aladar le dépassèrent entre-temps, la pointe de leur lance tournée vers le ciel. Ce serait foudrement dangereux si de vrais éclairs survenaient. Mais il n'avait guère le choix. Dalinar attendit que la voix lui en apprenne davantage, mais rien ne se produisit. Il se remit en marche et atteignit bientôt le plateau d'Adoline. Était-ce le tonnerre qu'il entendait là? Non. Dalinar se retourna et aperçut un cheval qui traversait le plateau au galop dans sa direction, avec une messagère sur son dos. Il leva la main pour interrompre un rapport tactique de la part du capitaine Javy.
Clarissime ! S'écria la messagère qui fit reculer son cheval. Le Clarissime Taleb est tombé. Le haut prince Royon a été battu. Ses lignes sont percées. Ses hommes restants sont cernés par les Parchendi. Il est pris au piège sur le plateau nord.
Damnation ! Et le capitaine Kahl ?
Toujours debout, en train de combattre pour avancer jusqu'au dernier emplacement où l'on ait vu Royon. Il est presque dépassé.
Dalinar se retourna vers Javy. Les réserves. J'ignore ce qu'il nous reste, répondit-il, le visage blême sous cette faible lumière. Tout dépend si certains ont remplacé des soldats.
Découvrez-le et amenez-les ici, ordonna Dalinar en se précipitant vers la messagère.
Pied à terre, lui dit-il.
Clarissime.
Pied à terre.
Elle descendit précipitamment de la selle, tandis que Dalinar plaçait un pied dans l'étrier pour se hisser à sa place. Il fit se retourner le cheval. Heureusement qu'il ne portait, pour une fois, pas de cuirasse. Ce cheval si léger n'aurait pas été capable de le porter.
« Rassemblez tous les hommes que vous pourrez, et suivez-moi » cria-t-il. « J'ai besoin d'hommes, même si vous devez reprendre ce bataillon de lanciers à Aladar !»
Le bruit de la pluie noya la réponse de Javy, tandis que Dalinar se penchait bas et plantait ses talons dans les flancs du cheval. L'animal s'ébroua, et Dalinar dut lutter contre lui avant de réussir à le faire avancer. Le crépitement des éclairs, au loin, rendait la créature nerveuse. Une fois orienté dans la bonne direction, il lâcha la bride au cheval, qui galopa avec empressement. Dalinar traversa le plateau à toute allure, et les tentes de triage, postes de commandement et points de ravitaillement défilèrent dans un mouvement flou. Tandis qu'il approchait du plateau nord, il ramena le cheval au pas et balaya la zone du regard à la recherche de Navani. Aucun signe d'elle, même s'il vit plusieurs grandes bâches disposées sur le sol, de coûteux carrés de tissu noir. Elle avait travaillé ici. Il questionna l'un des ingénieurs qui lui indiqua une direction, qu'il emprunta en longeant le gouffre à cheval. Il dépassa une série d'autres bâches déployées sur la pierre. De l'autre côté du gouffre, sur sa gauche, des hommes mouraient dans les cris et les hurlements. Il vit de ses propres yeux à quel point la bataille de Royon progressait mal. Les unités éparses aux bannières cernées, divisées en petits groupes vulnérables par des ennemis aux yeux rouges, trahissaient clairement l'ampleur du danger. Les Aleti allaient continuer à se battre, mais, à voir leur rang se fragmenter, leurs chances de s'en tirer semblaient maigres. Dalinar se rappela s'être battu ainsi 2 mois plus tôt, cerné par un océan d'ennemis, sans espoir de salut. Il fit accélérer son cheval et aperçut bientôt Navani. Elle se tenait sous un parapluie, occupée à donner des instructions à un groupe d'ouvriers munis d'une autre grande bâche.
« Navani !»
cria Dalinar en arrêtant son cheval sur le sol glissant de l'autre côté de la bâche. « J'ai besoin d'un miracle. »«
J'y travaille !»
lui lança-t-elle en réponse. « Pas le temps de travailler. Mettez votre plan à exécution, tout de suite !»
Il était trop loin pour voir son regard noir, mais il le ressentait. Heureusement, elle fit signe aux ouvriers de s'éloigner de sa bâche actuelle et se mit à crier des ordres à ses ingénieurs. Celles-ci coururent jusqu'au gouffre, où était disposée une rangée de pierres. Elles étaient attachées à des cordes, sembla-t-il à Dalinar. Mais il ignorait comment le procédé fonctionnait exactement. Navani se mit à crier des instructions. « Trop long !» se dit Dalinar, nerveux, en regardant de l'autre côté du gouffre. Avait-il récupéré la cuirasse de Téleb et la lame du roi qu'il portait ? Il ne pouvait pas éprouver de tristesse pour lui. Pas maintenant. Il avait besoin de ses éclats. Lorsque les pierres tombaient, les bâches s'élevaient à 15 mètres dans les airs, tendues au niveau des coins avant et du milieu. En un instant, une longue ligne de pavillons improvisés apparut le long du gouffre.
« Avancez !» s'écria Dalinar, poussant son cheval entre deux des pavillons. « Les archers, en avant !»
Des hommes se précipitèrent dans la zone protégée au-dessous des bâches, certains marmonnant en constatant l'absence de piquets pour les maintenir en l'air. Navani n'avait relevé que l'avant, si bien que les bâches étaient inclinées vers l'arrière, à l'écart du gouffre. La pluie s'écoulait dans cette direction. Elle possédait également des côtés, comme des tentes, si bien que seules les ouvertures se retrouvaient orientées vers les troupes de Royon. Dalinar mit pied à terre et tendit les rênes à un ouvrier. Il se précipita en courant sous l'un des pavillons pour rejoindre l'endroit où les archers formaient des rangs. Navani entra, portant un grand sac sur l'épaule. Elle l'ouvrit pour dévoiler un énorme grenat brillant suspendu à l'intérieur d'un fabrial de délicates dentelles métalliques. Elle s'affaira un moment avec l'appareil, puis recula.
« Nous aurions vraiment dû disposer de plus de temps pour le tester, » dit-elle à Dalinar en croisant les bras. « Les attracteurs sont des inventions nouvelles. Je redoute toujours à moitié que cet engin aspire le sang de toute personne qui le touchera. »
Il n'en fit rien. À la place, de l'eau commença rapidement à s'accumuler autour de l'appareil. Non des foudres, ça fonctionnait. Le fabrial attirait l'humidité de l'air. Les archers de Royon retirèrent leurs cordes d'arc de leurs poches protégées, bandèrent leur arc et le garnirent d'une corde sur les ordres de leur lieutenant. Une grande partie des hommes présents ici étaient des Palsiris. Le tir à l'arc était considéré comme une vocation acceptable pour un homme Paliris aux ressources modestes. Tout le monde ne pouvait pas être officier. Les archers se mirent à tirer des vagues de flèches au-dessus du gouffre, en direction des Parchendi qui avaient cerné l'armée de Royon. « Bien, » commenta Dalinar en regardant voler les flèches. « Très bien. »
« Avec le vent et la pluie, il sera malgré tout difficile de bien cibler les flèches, » répondit Navani. « Et j'ignore dans quelle mesure les fabriaux fonctionneront. Avec l'avant des pavillons ouverts, l'humidité va s'infiltrer constamment. Nous risquons de tomber à court de fulgiflammes au bout d'un laps de temps assez bref.
« Ça suffira, » répondit Dalinar. Les flèches firent une différence presque immédiate, détournant l'attention des Parchendi des troupes cernées. Ce n'était pas une manœuvre à tenter à moins d'être désespéré. Le risque de toucher des alliés était grand. Mais les archers de Royon se révélèrent mériter leur réputation. Il attira Navani vers lui d'un seul bras. « Vous vous êtes bien débrouillé. » Puis il demanda qu'on lui amène son cheval, le sien, pas cette monture de messager indiscipliné, tandis qu'il se précipitait hors du pavillon. Ses archers allaient lui fournir une ouverture. Avec un peu de chance, il n'était pas trop tard pour Royon.
« Non !» se dit Kaladin, qui fit le tour du divan pour aller se placer aux côtés du roi. Était-il mort ?
Il ne distinguait pas de blessure. Le roi remua, puis laissa échapper un gémissement paresseux et s'assit. Kaladin poussa un profond soupir. Une bouteille de vin vide reposait sur la petite table basse, et Kaladin sentait l'odeur du vin renversé à présent qu'il était plus près.
« Homme de pont !
demanda Elokar d'une voix pâteuse.
« Vous êtes venu exulter devant moi ?»«
Bourrasque, Elokar, » dit Kaladin, « quelle quantité avez-vous bu ?»«
Ils parlent tous de moi, »
répondit Elokar en se laissant retomber sur le canapé.
« Mes propres gardes, chacun d'entre eux. »«
Mauvais roi, » disent-ils.
« Tout le monde le déteste, » disent-ils.
Un frisson parcourut Kaladin. Il voulait que vous buviez, Elokar. Ça leur rend la tâche plus facile.
Hein ?
Nom des foudres. Il était à peine conscient. Venez, lui dit Kaladin. Des assassins viennent s'en prendre à vous. Nous devons sortir d'ici.
Des assassins ?
Elokar se releva brusquement, mais tituba ensuite.
Ils portent du blanc. Je savais qu'ils viendraient. Mais ensuite, ils ne s'intéressaient qu'à Dalinar. Même l'assassin pense que je ne mérite pas le trône. »
Kaladin parvint à se placer sous le bras d'Elokar, tenant sa lance d'une main pour se soutenir. Le roi s'affala contre lui, et la jambe de Kaladin protesta.
« Je vous en supplie, majesté, » lui dit Kaladin, qui s'effondrait presque.
« J'ai besoin que vous tentiez de marcher. »
« Les assassins doivent en avoir après vous, homme de pont, »
marmonna le roi.
Vous êtes un chef plus convaincant que moi. J'aimerais bien que vous m'appreniez. »
Fort heureusement, Elokar se soutint ensuite lui-même dans une certaine mesure. C'était une véritable lutte de marcher tous les deux vers la porte, où le corps du garde était toujours étendu. Le corps. Où était l'autre ? Kaladin se tortilla pour échapper à la poigne du roi, tandis qu'une forme floue armée d'un couteau plongeait vers lui. Par réflexe, Kaladin recula brusquement le manche de sa lance, levant les mains au niveau de sa tête pour un combat rapproché, puis il frappa. La pointe de la lance s'enfonça profondément dans l'estomac de Menton Fendu, qui émit un grognement. Mais ce n'était pas vers Kaladin qu'il se précipitait. Il avait plongé son couteau dans le flanc du roi. Menton Fendu s'effondra au sol, glissant de la lance de Kaladin, et lâcha son couteau. Elokar tendit la main vers son flanc, l'expression hébétée. Il en retira ses doigts tachés de sang.
« Je suis mort, »
murmura-t-il en étudiant le sang. La douleur et la faiblesse de Kaladin semblèrent s'évanouir d'un coup. Cet instant de panique lui prêta force, et il l'utilisa pour déchirer les vêtements d'Elokar tout en s'agenouillant sur sa jambe valide. Le couteau avait ricoché sur une côte. Le roi saignait abondamment, mais c'était une plaie à laquelle il pouvait tout à fait survivre, avec des soins médicaux.
« Faites pression dessus !» lui dit Kaladin en repoussant contre la plaie un morceau de tissu découpé dans la chemise du roi,
puis en plaçant la main d'Elokar par-dessus.
« Nous devons sortir du palais. Trouver un abri quelque part. »
Le terrain de duel, peut-être. Il pouvait compter sur les Ardents, et ils étaient capables de se battre. Mais serait-ce une cachette trop évidente ? En tout cas, il devait commencer par sortir du palais. Kaladin saisit sa lance et se détourna pour ouvrir la marche, mais sa jambe faillit le trahir. Il parvint à se rattraper, mais se retrouva en train de haleter de douleur, s'accrochant à sa lance pour éviter de tomber. Nom des foudres ! Cette flaque de sang à ses pieds provenait-elle de lui ? Il avait arraché ses sutures, et pas qu'un peu.
« Je me suis trompé, » déclara le roi. « Nous sommes tous les deux morts. »
Célère a continué à courir, gronda Kaladin en revenant se placer sous le bras d'Elokar.
« Quoi ? » ?»«
Il n'a pas réussi à gagner, mais il a continué à courir, et quand la tempête l'a rattrapé, peu importait qu'il soit mort, car il avait mis tout ce qu'il avait dans cette course.
« Ah, d'accord. »
Le roi parlait d'une voix hébétée, mais Kaladin ignorait si c'était l'effet de l'alcool ou du sang perdu. « Nous finissons tous par mourir, voyez-vous » dit Kaladin, tandis qu'ils empruntaient le couloir ensemble, Kaladin s'appuyant sur sa lance pour les maintenir droits. « Donc, j'imagine que ce qui importe vraiment, c'est dans quelle mesure vous avez bien couru, et vous, Elokar, vous courez sans vous arrêter depuis qu'on a tué votre père. » Même si vous passez votre temps à tout gâcher en permanence.
Merci,
répondit le roi, somnolent. Lorsqu'ils atteignirent un croisement,
qu'Aladine décida de s'échapper à travers les entrailles du complexe palatial plutôt que par les portes de devant. C'était tout aussi rapide, mais ce ne serait peut-être pas le premier endroit où les conspirateurs chercheraient. Le palais était vide. Moash avait fait ce qu'il avait annoncé et envoyé les serviteurs se cacher, prétextant le précédent créé par l'attaque de l'assassin en blanc. C'était effectivement un plan parfait.
« Pourquoi ?»
murmura le roi. « Ne devriez-vous pas me détester ?»« Je ne vous aime pas, Elokar, » lui dit Kaladin, « mais ça ne signifie pas qu'il soit juste de vous laisser mourir. »
« Vous avez dit que je devrais me retirer ? Pourquoi ?»«
Homme de pont. »«
Pourquoi m'aider ?»«
Je n'en sais rien. » Ils bifurquèrent dans un couloir, mais ne parvinrent qu'au milieu avant que le roi ne s'arrête de marcher et ne s'effondre à terre. Avec un juron, Kaladin s'agenouilla pour vérifier son pouls et inspecter la blessure. « C'est le vin, » décida Kaladin. L'ivresse, combinée à la perte de sang, laissait le roi dans un état second. C'était inquiétant. Kaladin s'efforça de panser à nouveau la plaie, mais que faire ensuite? Essayer de traîner le roi sur une civière? Aller chercher de l'aide en courant le risque de le laisser seul?
Kaladin!
Il s'immobilisa, toujours agenouillé au-dessus du roi.
Kaladin, qu'est-ce que vous faites?
Demanda la voix insistante de Moash derrière lui.
« Nous avons trouvé les hommes à la porte de la chambre du roi, nom des foudres. C'est vous qui les avez tués ?»
Kaladin se leva et se retourna, appuyant son poids sur sa jambe valide. Moash se tenait à l'autre bout du couloir, resplendissant dans sa cuirasse bleue et rouge. Un autre porte-éclat l'accompagnait, l'âme posée sur l'épaule de sa cuirasse, visière baissée. Grave. Les assassins était arrivé.